Vous êtes avec SBS French.
Le gouvernement du Victoria annoncera des plans pour une alternative inédite à la quarantaine dans les hôtels. Michael Collins, l'un des trois membres de l'équipage historique de la mission Apollo 11, décède à l'âge de 90 ans. Et en France, c'est suivant un format inhabituel qu'Emmanuel Macron va dévoiler son plan de déconfinement. Le gouvernement du Victoria envisage de réaffecter un complexe de quarantaine pour les animaux de compagnie du nord de Melbourne pour y loger des personnes devant servir leur délai de quarantaine. Le site actuellement utilisé par le département fédéral de l'agriculture pour mettre des animaux en quarantaine pourrait être adapté à l'hébergement en cabane similaire au site de Howard Springs dans le territoire du Nord. Le gouvernement de Victoria doit faire une annonce ce jeudi après presque trois mois d'évaluation de divers endroits à travers donc l'État qui pourrait être une alternative au système actuel de quarantaine dans des hôtels. Le déploiement de la vaccination contre le COVID en Australie reste en retard, bien qu'on comptabilise plus de 2 millions de doses déjà injectées. Certaines personnes qui font partie de groupes dits prioritaires, comme les personnes âgées, n'ont toujours pas été vaccinées. Le premier ministre Scott Morrison déclare quand même que la campagne progresse, mais tout le monde n'est pas d'accord. La sénatrice indépendante Jackie Lambie a dénoncé sur Nine Network, la complaisance du gouvernement. Selon Jackie Lambie, la transparence doit être exercée, en particulier sur les délais garantis de la livraison des doses sécurisées. Elle demande au gouvernement d'être clair à ce sujet.
Because we have not had death in our faces like many other countries out there, we've become quite complacent. I just find it really, really concerning. But it was a real failure on the federal government not to secure those vaccines very, very early on. And I tell you now, I've been part of that COVID committee and trying to get the truth out of the people sitting in front of us has been really, really difficult, which is not helping the situation. Come out and be honest. This is about people's health. Tell us what has really gone wrong.
Et les autorités sanitaires enquêtent sur la mort des deux hommes en Nouvelle-Galles du Sud, décédés peu après avoir été après avoir été vacciné au COVID-19. Aucun lien n'a encore été trouvé entre les décès et le vaccin. La Therapeutic Goods Administration précise qu'un rapport d'événement indésirable après la vaccination ne signifie pas que l'événement a été causé par la vaccination, mais que cette autorité est au courant de ce cas. Un homme de 55 ans a souffert d'un caillot sanguin dans les poumons et est décédé peu après à l'hôpital de Tamworth la semaine dernière, 8 jours après avoir reçu un vaccin contre le COVID. Sa famille a déclaré à un journal local qu'elle ne savait pas quel vaccin l'homme avait reçu. L'autre décès était un homme de 71 ans à Sydney qui avait des conditions médicales existantes et a été récemment vacciné à l'AstraZeneca. Et c'est ce jeudi que le trésorier fédéral Josh Frydenberg prononcera son dernier grand discours avant la présentation de son budget le 11 mai prochain. Selon M. Frydenberg, le budget du mois prochain visera à réduire davantage le taux de chômage à moins de 5% tout en évitant un virage austéritaire. M. Frydenberg a déclaré vouloir entreprendre un redressement du budget, un budget frappé par la pandémie de coronavirus. S'exprimant sur Sunrise, sur un programme de Channel 7, M. Frydenberg a affirmé vouloir ramener le chômage à son niveau d'avant la pandémie.
My first goal is to get it back to where it was going into this pandemic, which was at 5.1% last February. But even last December, just a few months ago, we expected more than 200,000 people to be unemployed than compared to today.
Yep.
And so the recovery has been so much stronger and faster, not just compared to previous recessions, but even our most optimistic forecasts. And that's why we want to keep that momentum going.
Et en marge de ce budget fédéral, l'organisation humanitaire Anglicare demande au gouvernement de résoudre la question de l'accès au logement. En effet, un rapport récent sur l'accès au logement par Anglicare Australia a montré que sur 74 000 propriétaires à travers le pays, seules 3 propriétés toutes des colocations ici étaient abordables pour une personne sur JobSeeker. Il n'y avait pas de logement abordable pour une personne bénéficiant d'une allocation jeunesse. Et un peu plus de 200 logements étaient abordables pour les bénéficiaires de la pension de soutien aux personnes handicapées, tandis que ceux qui bénéficient de la pension de vieillesse pouvaient se permettre seulement un peu plus de 380 sur les 74 000 propriétés. Le directeur exécutif d'Anglicare Australia, Casey Chambers, a déclaré que si le gouvernement prétend que l'économie rebondit, les personnes au salaire minimum ne peuvent se permettre qu'1% des loyers, ce qui est moins de la moitié de ce qui était disponible l'année dernière. La Chine a exhorté les politiciens australiens à sortir de leur mentalité de guerre froide, qualifiant certains membres du gouvernement d'être des fauteurs de troubles. Cette déclaration fait suite aux affirmations du secrétaire australien aux affaires intérieures, Mike Pezzullo, qui avait déclaré que des bruits de bottes grondaient à travers le monde et que l'Australie devait se préparer à un conflit régional. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Linjian, a déclaré que depuis longtemps, l'Australie a tiré profit de sa coopération avec la Chine et devrait plutôt se concentrer sur la promotion de la paix.
As a country that has long benefited from cooperation with China, it is unethical for Australia to hype a China threat theory, nor is the allegation consistent with facts. It will end up hurting itself. We advise individual Australian politicians to abandon the Cold War mentality, stop making irresponsible remarks, and do more to benefit regional peace and stability.
Et plusieurs aborigènes appartenant à la génération volée ont attaqué le gouvernement australien pour obtenir compensation. La génération volée, ce sont ces milliers d'enfants aborigènes enlevés de leur famille et placés dans des institutions pour y subir un processus d'assimilation. Explication de cette action en justice avec Christophe Paget pour RFI.
Ils ont effacé des générations entières comme si elles n'avaient jamais existé. Ils sont allés à 84 ans et l'on avait 9 lorsqu'on l'a arraché à sa mère pour la placer dans une institution à 700 km de là à des fins d'assimilation. Ether Alley fait partie des 800 habitants des territoires du Nord qui viennent de lancer un recours collectif, une class action contre le gouvernement fédéral. Car si d'autres États d'Australie ont mis en place des mécanismes pour indemniser cette génération volée, l'État fédéral qui dirigeait les territoires du Nord à l'époque de ces enlèvements, de 1910 aux années 70, n'a rien fait. Pourtant, en plus de cet arrachement à leur famille qu'ils n'ont souvent jamais revu, les enfants ont subi de graves violences physique et psychologique. Placés dans ces institutions ou dans des familles blanches, ils étaient punis lorsqu'ils parlaient leur langue et pratiquaient leur culture. Ifira Alès se souvient qu'elle était régulièrement battue à coups de câbles électriques et de cordes. En 1997, un rapport estimait qu'au minimum un indigène sur 10 avait été enlevé à sa famille. L'Australie a présenté des excuses nationales en 2008, mais les victimes dénoncent aujourd'hui encore un racisme institutionnel et un échec des autorités à affronter les problèmes de santé mentale de cette génération volée.
Et c'était Eric Christophe Paget pour RFI. Et pour annoncer les prochaines étapes du déconfinement, le président Emmanuel Macron répondra aux questions de la presse quotidienne régionale. Après plus d'un an de crise sanitaire, le président français a choisi un format moins solennel, plus proche du quotidien des Français, pour dévoiler à quoi va ressembler leur vie dans les prochaines semaines. Le chef de l'État avait promis, on se souvient, le 31 mars dernier, de revenir devant les Français pour annoncer les prochaines étapes d'un déconfinement très progressif. Et au Tchad, le CMT s'est exprimé pour la première fois sur les manifestations contre l'instauration d'un conseil militaire de transition dirigé par Mahamat Idriss Déby, un des fils du président tchadien tué au front le 19 avril dernier. Des manifestations souvent violentes ont secoué la capitale tchadienne et quelques villes de province mardi et mercredi. Selon le porte-parole du conseil militaire de transition, le général Azem Bermandoa, les dérapages seraient imputables aux manifestants et auraient causé des débordements. Compte rendu de la situation à N'Djamena avec François Mazet et Boris Vigit pour RFI.
Motos, scooters et taxis collectifs se pressent sur l'avenue 5 sur 5. Les magasins sont ouverts, les maquis attendent avec impatience la tombée de la nuit. De prime abord, chacun semble vaquer à ses occupations quotidiennes. Au milieu du boulevard, pourtant, les marques et les résidus des pneus et des branchages brûlés la veille sont bien visibles. Assis à l'ombre, un groupe évoque la situation autour de Job, pasteur d'une église locale.
On était là, les mains vides, parce qu'on n'a pas des armes. C'est ici, vous voyez les traces de pneus que les jeunes ont brûlées. C'est une manière aussi d'extérioriser leur colère, leur mécontentement. Parce que ça fait 3 décennies qu'on était dans l'oppression et on ne veut pas que ça continue.
Immanquablement, la conversation attire les passants. Certains descendent de leur mototaxi pour dire leur ras-le-bol, comme cet étudiant à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports. Diaf n'a pas été rassuré par le premier discours de Mahamat Debi.
On veut un changement. Et ce que moi, ça m'a vraiment désolé, ou encore ça m'a écœuré, c'est que cette déclaration à laquelle le fils de Debi a fait, c'est une déclaration de guerre contre le peuple. On veut le changement.
Lui aussi étudiant, parfait d'y comprendre l'urgence sécuritaire ayant mené à l'installation du CMT à la mort d'Idriss Déby. Mais il estime que son fils doit rapidement rendre le pouvoir.
Suite à la mort de Déby, ce qu'il a fait, c'est très bon. Mais je veux à ce que la transition soit vraiment démocratique. Il faut que ça soit immédiatement, la transition soit donnée à un civil.
Et Michael Collins, cet astronaute d'Apollo 11, est décédé d'un cancer à l'âge de 90 ans. Michael Collins a piloté le vaisseau spatial à partir duquel Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont fait leurs premiers pas historiques sur la Lune en 1969. Éric de Salve revient sur l'épopée de Michael Collins, aussi considéré comme l'homme le plus solitaire.
Michael Collins, le troisième homme d'Apollo 11, celui qui n'a jamais marché sur la Lune, lui était en fait le pilote de la première mission lunaire habitée. Ce fameux 20 juillet 1969, quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont devenus les deux premiers hommes à marcher sur la Lune, il en fallait un troisième pour rester aux commandes du module spatial à l'intérieur de la capsule, et ce troisième homme, c'était donc lui. Pour l'anecdote, à ce moment précis, Michael Collins est aussi devenu l'homme le plus seul de l'humanité, car pendant que ses collègues marchaient sur la Lune, lui était en orbite. Et une fois de l'autre côté de la Lune, le colonel Collins a perdu tout contact avec eux et avec la NASA, seul dans l'espace, totalement coupé du reste de l'humanité. Après son retour triomphal sur Terre, Michael Collins a rapidement quitté la NASA pour la vie publique. Il a notamment été secrétaire d'État du président Nixon. C'est sa famille qui annonce sa mort à 90 ans d'un cancer. Toute sa vie, Michael Collins a parlé de la Lune avec poésie. « Cette magnifique petite chose, disait-il, nichée dans le velours noir du reste de l'univers ».
Compte rendu par Éric de Salve pour RFI. Et on estime que l'équipage d'Apollo 11, composé de 3 hommes, a effectivement mis fin à la course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et cela fait 100 jours que Joe Biden est à la Maison-Blanche, 100 jours durant lesquels le président américain a mis en place une partie de son programme et ses promesses de campagne. L'une de ses promesses concernait la lutte contre l'épidémie de coronavirus à travers notamment une vaccination massive. Agnieszka Kuchmor de RFI revient sur les 100 jours de Joe Biden à la Maison-Blanche.
De son 10 millions de doses de vaccins administrées en 100 jours, l'efficacité américaine dans ce domaine a de quoi faire rêver les autres grandes puissances. Et de fait, ce sont tous les pans de l'économie qui en profitent, le redémarrage de l'activité est réel. Joe Biden, homme pressé, a également lancé en un temps record un plan massif de 1900 milliards de dollars. Plan adopté sans le soutien des républicains, il a pour objectif de compenser l'impact de la crise. Résultat, près d'1 300 000 emplois créés en février et en mars et le chômage qui recule à 6%. À cela s'ajoute le plan de 2000 milliards de dollars pour les infrastructures et l'emploi que l'administration Biden entend financer en relevant les impôts sur les sociétés américaines. Autre projet prioritaire, investir 1800 milliards de dollars dans les services à l'enfance et l'éducation en taxant les grandes fortunes. Une certaine idée de la justice fiscale qui semble faire des émules ailleurs dans le monde.
Et on reste aux États-Unis où Andrew Giuliani, le fils de l'ancien maire de New York et avocat de Donald Trump, a critiqué le ministère américain de la justice après une perquisition au domicile de son père à Manhattan. Andrew Giuliani a qualifié le raid de dégoûtant tout en dénonçant ce qu'il dit être une politisation de la justice.
Anybody, any American, whether you're red or blue, should be extremely disturbed by what happened here today, by the continued politicization of the Justice Department. This is disgusting.
En effet, des agents fédéraux américains ont fait une descente au domicile et au bureau de M. Giuliani où ils ont saisi des ordinateurs et des téléphones portables. Le raid envoie le signal le plus fort à ce jour que M. Giuliani pourrait éventuellement faire face à des accusations fédérales. Et en Inde, les cas quotidiens de Covid-19 et le nombre journalier de décès liés au virus ont atteint de nouveaux records avec 360 000 cas dépistés hier et 200 000 morts. Il s'agit de pics les plus élevés en une seule journée depuis le déclenchement de la pandémie dans le pays. Pour le 7e jour consécutif, l'Inde a enregistré plus de 300 000 cas de Covid par jour. Udaya Rikmi, le chef de la Fédération internationale de la Croix-Rouge pour l'Asie du Sud, estime que l'Inde est le nouvel épicentre de l'épidémie.
Now India becoming an epicenter of the world regarding this pandemic. But the government putting their all efforts to control these situations. We are very much hopeful within a week or two, it will be controlled.
De son côté, le docteur Soumya Swamarintan, scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé, estime quant à lui que le bilan de l'Inde a été largement sous-estimé. Selon ce haut responsable de l'OMS, le nombre de personnes infectées était au moins 20 à 30 fois plus élevé que ce qui avait été rapporté. Et retour en Australie, avec un coup d'œil sur la météo à travers le pays, eh bien Perth 25 degrés, Adélaïde 24, Melbourne 19, Hobart 19 également, Canberra 21 degrés, Wollongong 23, Sydney 24, Newcastle 24, Brisbane 25, Cairns 28 et Darwin 33 degrés. Et un rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi, le gouvernement du Victoria annoncera des plans pour une alternative inédite à la quarantaine dans les hôtels. Michael Collins, l'un des trois membres de l'équipage historique de la mission Apollo 11, décède à l'âge de 90 ans. Et en France, c'est suivant un format inhabituel qu'Emmanuel Macron va dévoiler son plan de déconfinement.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.